Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, première partie à 7h40 sur Radio Classique. L'économie avec vous, Fabrice Fabrice lundi. Alors, question que j'avais envie de vous poser ce matin, Fabrice, les Français ont-ils changé leur façon de consommer avec cette crise?
Bah, Renaud, on va parler de nous, tout simplement. Bah, de vous, de moi, de Bertrand qui réalise cette session, bien sûr. Déjà, les Français, où achètent-ils et à quelle fréquence? Bah, on est nombreux, ils sont nombreux à réduire la fréquence des courses. Et pour un client sur cinq, environ, à s'intéresser pour la première fois au drive ou à la livraison. C'est l'observatoire 7LM qui le révélait. Seuls 40% reconnaissent avoir fait des stocks alimentaires. Une personne sur trois ne veut pas modifier ses petites habitudes en matière de course, surtout parmi les plus âgés. Oui, les petites habitudes, vous savez, qui ont justifié hier qu'on soit dans la rue Montorgueil, très nombreux.
Des images assez incroyables,
quand même. Non, mais c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, Renaud, mais bon.
J'avais l'impression d'être avant le
confinement.
Le confinement.
C'est pareil. Ouais. Le marché de Nogent-sur-Marne, où j'habite, c'était pareil. Il y a trois semaines, et samedi, c'était exactement pareil. La distance n'existait pas, il n'y avait pas un mètre. Alors, ces Français, qu'est-ce qu'ils achètent? Des cartouches d'encre,
oui.
Des ramettes de papier, oui, c'est les échos hein, qui ont fait l'inventaire. En 15 jours, pas moins de 150 000 ramettes de papier vendues chez Auchan, c'est-à-dire trois fois plus. Alors, pas que pour imprimer la fameuse attestation, par exemple, mais aussi les cours à domicile pour les enfants, le télétravail, ce qu'on imprimait au bureau, ben, finalement, on le fait chez soi. Les imprimantes aussi sont très demandées. 50% de plus dans certaines enseignes. Alors Renaud, après l'effort, le réconfort, les jeux de société, les jeux familiaux, les jeux éducatifs, il faut s'occuper, donc ça se vend. Les cartes à jouer, je vous présentais tout à l'heure Carta Mundi France, le Nancéien, 6h57 dans Territoire d'Excellence. Et puis on veut se faire plaisir. La cuisine à la maison, la cuisine en famille, qu'est-ce qu'on achète? Des robots, des yaourtières, des sorbetières, des machines à pain, des gaufriers, des machines à spaghettis. Et tout ça, ça s'accompagne aussi d'une ruée sur la farine, les œufs, le sucre, le beurre. Sans oublier les réfrigérateurs, les congélateurs qui ont été pris d'assaut aussi chez Darty, apparemment, selon les échos. Et puis vous avez vu que les coiffeurs sont fermés, les instituts de beauté aussi. Qu'à cela ne tienne, on achète des tondeuses à cheveux, des tondeuses à barbe, des épilateurs, des machines pour faire chauffer la cire. Voilà.
Alors certains secteurs en profitent, je mets bien sûr des guillemets, en profitent naturellement avec cette crise.
Ouais, alors, selon les fédérations patronales, c'est le JDD hier qui a fait la compilation, l'agroalimentaire, évidemment, qui tourne à 100%, la viande, la meunerie, les céréales. Cela dit, on va en reparler avec David Barrault d'ici quelques minutes. Il y a des excédents parce que les restaurants, les cantines sont fermés. Il va falloir réduire la production, en tout cas des organisations paysannes le demandent, sinon les cours vont baisser. Alors, autre secteur en forme, le bois et le papier, on en parlait, évidemment. Les utilities, c'est-à-dire l'eau, la propreté, le ramassage des ordures, qui ne s'est pas arrêté. Les banques, même si des agences sont fermées, elles sont mobilisées pour les aides aux entreprises, comme nous disait Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, à 7h15 sur Radio Classique. Les télécoms aussi se portent bien, on consomme de l'Internet, de la 4G. La radio, on écoute, on nous écoute. La télé aussi, grosse audience, mais là, tout n'est pas rose, parce que la pub fait défaut. D'où cette idée de crédit d'impôt pour les marques qui vont à nouveau prendre de la pub à la télé, à la radio. Il y a des activités économiques qui plongent, bien sûr. L'auto, vous avez vu la dégringolade des immatriculations de voitures neuves, le 1er avril, trois quarts de mois, le nautisme, le textile, le bâtiment, l'ameublement, des industries qui accusent un recul de 60 à 80%, d'où la nécessité des plans de soutien, des prêts garantis, le transport aérien, le TGV, 10% du volume habituel, le tourisme, le spectacle. Vivement la fin, mais sans se précipiter. Pas de relâchement dans le confinement. À continuer à utiliser évidemment tous les produits d'hygiène. Et là, c'est pas une surprise. 3 Français sur 10 disent avoir acheté plus de produits d'hygiène que d'habitude. C'est l'observatoire 7LM. Razzia sur les gants de ménage, l'eau de Javel, les masques anti-poussière et aussi les purificateurs d'air.
Merci Fabrice Lundy pour toutes ces explications. Il est 7h44, l'heure de retrouver Emmanuel Faux, le spécialiste de l'international. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Direction Londres ce matin, au lendemain du discours télévisé de la reine sur l'épidémie. Elisabeth II s'est adressée aux Britanniques en saluant leur courage collectif.
Oui, vous savez, Renaud, que les occasions d'un discours royal de cette importance sont rarissimes, puisqu'en 68 ans de règne, la reine Elisabeth n'a pris la parole que 4 fois en dehors de ses messages de Noël. C'était en 91, à la veille de la première guerre du Golfe, en 97 après la mort de Diana et en 2002 lorsque la reine-mère est décédée. Alors hier, la souveraine a choisi un ton très personnel en essayant de prendre de la hauteur en plein confinement du pays. Elle a exalté les trois valeurs qui fondent le caractère britannique selon elle, l'autodiscipline, la camaraderie et la témérité discrète et joyeuse. Elle s'est aussi projetée dans les jours d'après et même dans les années d'après, lorsqu'il sera temps d'être fière du défi surmonté. Il y avait dans ce discours un mélange d'invitation à tenir bon, à faire preuve de résilience, elle a employé le mot trois fois, et aussi un salut à la nation dont elle a rappelé qu'elle est à la fois la mère, la grand-mère et la doyenne, en évoquant ses souvenirs d'enfance avec sa sœur Margaret en 40 sous les bombardements allemands. Et puis, car on sait l'importance des codes couleurs chez les Windsor, la reine a aussi voulu donner à son speech une petite touche d'espérance. Elle s'était habillée en vert.
Elisabeth II n'a pas exprimé de critique sur la manière dont le gouvernement de Boris Johnson gère cette crise sanitaire.
Non, elle ne peut pas le faire parce qu'elle règne et son gouvernement gouverne, c'est la Constitution. Mais sa seule présence hier, immuable, telle qu'en elle-même, soulignait la gravité du moment pour le Royaume-Uni et pour le monde. C'est vrai que le Premier ministre a pas mal tergiversé ces dernières semaines avant de décréter le « stay at home », le « rester à la maison », qui figure désormais sur le pupitre de la plupart des officiels qui prennent la parole à propos du coronavirus. Boris Johnson fait d'ailleurs lui-même les frais de ses premiers atermoiements, puisque vous le savez, après 10 jours de quarantaine au bureau, il a été hospitalisé hier soir pour des analyses en raison de symptômes persistants. Son ministre de la Santé, Matt Hancock, est lui aussi touché par la maladie qu'il commande chaque jour, quel symbole. Et puis au début de l'épidémie, le gouvernement avait été très critiqué en optant pour la stratégie de ce que l'on appelle l'immunité de groupe, qui consiste à laisser le virus contaminer une majorité de la population pour arriver à une immunité quasi générale, et donc à la disparition du virus. Stratégie qui a d'ailleurs été choisie par les autorités suédoises. Finalement, Boris Johnson a renoncé, conscient que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se comporter comme une île coupée du reste du monde. Comme en France, le gouvernement britannique en vient maintenant à fustiger tous ceux qui ont tendance à profiter un peu trop du soleil, notamment ce week-end, et les règles de confinement pourraient être durcies dans les prochains jours outre-Manche, surtout si le bilan des victimes continue de s'aggraver.
Merci beaucoup Emmanuel, et que Dieu sauve la reine, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. Bonjour Élodie.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Alors toujours dans votre salle de bain ce matin?
Et bien sûr.
Alors, on parle de bande dessinée avec vous. Les éditeurs rivalisent de générosité, eh bien, pour mettre en ligne nos bulles préférées.
Impossible d'aller à la librairie, et bien qu'à cela ne tienne, les éditeurs de BD sont solidaires, en accord avec les auteurs. Le Lombard, Dargaud, Dupuis, Delcourt mettent en ligne gratuitement des titres et pas des moindres. Alors il y a des nouveautés, des classiques, des tomes 1, souvent pour faire découvrir des univers aux petits comme aux grands. Je commence avec les enfants, vacances scolaires oblige. Chez Dargaud, et bien vous lirez Sardines de l'espace par exemple, ou Boule et Bill. Le Lombard nous régale avec les enfants de la résistance, Yakari ou les Schtroumpfs. Et chez Delcourt, qui offre la lecture numérique en gratuit jusqu'au 30 avril, et bien vous rirez tendre avec le grand méchant renard. Si vous êtes grand, vous pourrez vous régaler avec 13 ou découvrir l'anarchie douce du dessinateur GB en lisant L'An 01, une BD politique où il imagine un monde utopique où l'économie de marché serait mise à l'arrêt et où il faudrait tout réinventer.
Alors Élodie, si on ne veut pas lire de BD, on peut en dessiner.
Oui, il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent sur le web et sur les réseaux sociaux. L'une des premières, c'est la Corona Maison. Dès le 15 mars, Pénélope Bagieux, vous savez, la dessinatrice des culottés, a initié sur Twitter une sorte de cadavre exquis collaboratif avec l'illustrateur Tim. Il a dessiné une pièce rectangulaire, toute vierge, avec un escalier dans un coin, à partir de laquelle tous les dessinateurs, en herbe ou amateurs ou professionnels, sont invités à créer. Donc vous pouvez ajouter à votre guise la décoration, les personnages, les animaux, les plantes vertes. Toutes les pièces vont s'empiler à terme, comme les étages d'un immeuble. Pour les petits, il y a un grand illustrateur jeunesse qui est l'indétrônable Claude Ponty, star de l'école des loisirs, qui a eu aussi une très très bonne idée. Lui, depuis le début du confinement, il propose aux enfants de réaliser leur propre album. Chaque jour, il propose une chose à faire pour enrichir ce livre. Allez voir sur son Facebook. En cliquant, vous allez tomber sur toutes les pages à télécharger sur Google Drive. Enfin, Lewis Trondheim, qu'on ne présente plus, sur Twitter, lui propose chaque jour un jeu. Il dessine les trois premières cases d'une histoire courte. Celui qui trouve la chute et la dessine reçoit une carte postale dédicacée.
Alors enfin, et c'est un must, hein, la Bibliothèque Nationale de France propose une application gratuite qui vous permet de réaliser vos propres bandes dessinées.
Ça s'appelle BDNF et c'est absolument gratuit sur ordinateur, smartphone, tablette. C'est un studio de création où on peut tout simplement mêler des illustrations et du texte et les mettre en place. Mais le must, c'est que la BNF met à disposition de nombreux éléments visuels issus de ses archives, des décors, des photos anciennes auxquelles vous pouvez croiser vos propres dessins. C'est incroyable.
Merci beaucoup, Élodie. 7h49 sur Radio Classique. Tout de suite, les spécialistes, deuxième partie, avec le professeur Christian Perron.
Renaud Blanc sur Radio Classique.
Bonjour Christian Perron.
Bonjour.
Chef du service infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On va parler de cette pétition en faveur de la chloroquine dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment s'est passé ce week-end qu'on présentait comme celui de tous les dangers pour les hôpitaux de la région Île-de-France. Comment ça s'est passé à Garches pour vous ?
Alors, à Garches, il y a plutôt une accalmie en ce moment.
Oui.
Il n'y a pas eu trop de nouvelles demandes de malades d'entrants, disons. Donc, on a l'impression d'une petite accalmie, mais faut prendre un peu de recul.
On ne peut pas encore parler de pic qui est passé ou de pic à venir. Les médecins sont très, très prudents sur ce pic ou ces possibles plateaux dans les jours qui viennent.
Ouais, faut être très prudent, mais on voit quand même depuis quelques jours, il y a une petite tendance à la diminution de la mortalité, donc c'est plutôt encourageant, mais il faut prendre un peu de recul.
Voilà, petite lueur d'espoir tout de même. Christian Perron, vous avez lancé avec d'autres médecins, notamment Philippe Doustoblasi, une pétition pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine sur le hashtag « Ne perdons plus de temps ». Quel est le but, quel est votre objectif avec cette pétition ?
Il y a quand même des données en Chine, à Marseille, maintenant le retour de beaucoup de pays, dont les États-Unis, qui semblent dire que l'hydroxychloroquine, quand elle est utilisée de façon large chez des patients qui ne sont pas trop sévères, empêche des hospitalisations, des passages en réanimation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est un produit qui a un bon profil de sécurité. Quand on regarde les données de Santé publique France, on les a analysées encore il y a deux jours, on voit que, par exemple, chez les gens qui sortent de l'hôpital, à Marseille, il y a 11% de mortalité, alors qu'à Paris, c'est 31%, dans les 40%. Donc, on voit qu'on meurt moins à Marseille. On peut dire que c'est d'autres facteurs que l'hydroxychloroquine, mais il faut... Là, il y a vraiment, je pense, une perte de temps dans la décision, parce que tous les pays ont fait des stocks d'hydroxychloroquine, et en France, on n'en a pas, il y a une situation de pénurie. On en a juste assez pour les hôpitaux, pour les gens hospitalisés, et encore, beaucoup de services hospitaliers refusent d'en donner. Donc, on est dans une situation qui est terrible, avec des centaines de morts tous les jours.
L'idée, c'est évidemment de commencer un traitement avec la chloroquine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, il faudrait le donner dès les premiers symptômes, si je vous comprends bien.
Ben oui, parce qu'il y a un décret que beaucoup de médecins ne comprennent pas, qui interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine, sauf chez les gens qui sont presque en phase terminale de la maladie, ce qui est une idiotie. Si ce produit marche, d'après les retours d'expérience et les quelques publications qui, je reconnais, ne sont pas de très bonne qualité, mais elles existent quand même, disent que ça marche à une phase beaucoup plus précoce de la maladie. Alors, il ne s'agit pas de mettre tous les Français sous ce traitement, parce que les jeunes en bonne santé n'ont pas besoin de traitement. Ce sont les personnes qui ont des facteurs de risque, ont des formes moyennement sévères, un début de pneumonie. Là, tout le monde, à mon avis, dès aujourd'hui, devrait être traité.
Christian Perron, les Français sont totalement perdus sur cette question de la chloroquine, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des sommités qui disent il faut l'utiliser, d'autres grands médecins qui disent non, il ne faut pas l'utiliser. Vous comprenez qu'on soit totalement dérouté ?
Ah ben je comprends, mais je comprends pas non plus cette cacophonie. Il faudrait que les experts cessent d'être dans une logique de on va faire des essais, on regardera les résultats dans plusieurs semaines,
oui.
Alors que là on est en situation de guerre avec une pandémie qui fait des morts tous les jours. Il faut savoir prendre des décisions, même si on n'a pas toutes les données complètes aujourd'hui. C'est toujours comme ça en situation de guerre.
Vous avez des contacts avec les équipes du ministre de la Santé, avec Olivier Véran ?
Non, j'ai pas de contact, ils ne m'ont jamais contacté.
Et ça, c'est quand même très préjudiciable. Vous pensez que c'est la personnalité du professeur Raoult qui est quelque part contre-productive, ce qui pourrait apparaître aberrant, mais est-ce que vous pensez que ça peut jouer ?
Je pense que ça a dû jouer parce que c'est vrai que la première communication de Didier Raoult était peut-être un petit peu excessive et du coup il a suscité beaucoup de rejets dans la communauté scientifique. Bon, c'est sa personnalité, il est un peu original, c'est pas pour ça que c'est pas un grand scientifique.
Bien sûr, vous avez 200 000 signatures à l'heure actuelle, donc sur hashtag ne perdons plus de temps, vous espérez combien de signataires de cette pétition ?
Je sais pas, c'est pas le nombre qui compte, c'est, on a vraiment le sentiment partagé dans la population qu'il faut agir dès maintenant et pas attendre encore le résultat d'éventuelles études scientifiques, surtout qu'on a découvert hier que les inclusions dans leur essai clinique Discovery ne peuvent pas se produire dans certaines villes parce qu'on manque d'un des autres produits antiviraux, parce qu'il n'y a pas eu de constitution de stock pour les autres produits qui veulent être analysés dans ces études. Donc malheureusement, on est en pénurie de beaucoup de médicaments aujourd'hui.
Alors dans le journal de 7h30, on a parlé avec Lauriane Toulmont du BCG qui pourrait protéger les soignants.
Alors ça c'est une hypothèse, moi j'ai pas de données très solides là-dessus, il y a vraiment franchement pas de résultats convaincants pour l'instant, mais ça peut être une piste d'étude. Mais...
J'ai deux dernières questions, Christian Perron, à vous poser. D'abord sur la question des masques, alors seulement pour les soignants, ça on peut le comprendre, mais est-ce que vous estimez que si on avait suffisamment de masques, il faudrait en distribuer à toute la population et sortir automatiquement avec un masque ?
Si on avait suffisamment de masques, oui, parce qu'il y a par exemple l'exemple de pays asiatiques où tout le monde est sorti avec des masques sans confinement et il y a eu très peu de décès. Donc ça a été montré grandeur nature que si vraiment toute la population porte un masque, ça marche. Et comme on n'a pas de masque en France, effectivement, on ne peut pas faire cette politique. Mais ce sera peut-être une leçon, j'espère, pour une autre épidémie.
Ça signifie qu'il va falloir vraiment changer nos habitudes ?
Oui, parce que par exemple, en phase épidémique de grippe, etc., se serrer la main tous les jours, c'est peut-être pas des comportements qui sont raisonnables quand on sait que les mains transmettent beaucoup d'infections. Et d'ailleurs, le ministère dès le début a dit arrêtez de vous serrer les mains, c'était un excellent message.
Le manque de médicaments, le manque de morphine notamment, de curare, de sédatifs, vous le constatez à Garches?
Non, parce que quand même dans les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, on est assez privilégiés, mais les stocks sont quand même très limités. Il faut surveiller ça au jour le jour.
C'est une véritable inquiétude pour vous quand même.
Oui, c'est une inquiétude. Bon, sauf si les tensions sur les réanimations diminuent, ce que j'espère dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça depuis le début que j'exerce la médecine.
Dernière question, j'en reviens à votre pétition. Vous espérez que cette pétition sera lue par le ministre de la Santé, par le Premier ministre, par le Président de la République, qu'une décision pourra aboutir très 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 vite concernant la chloroquine ?
Je l'espère. En tout cas, Olivier Véran l'a vu parce qu'il l'a commenté à chaud dès le lendemain, mais en disant qu'il ne prendrait jamais de décision sans avoir l'aval de toutes les sociétés savantes, ce qui me paraît surprenant parce qu'un chef de guerre doit prendre des décisions sans consensus. Si on attend l'avis de toutes les sociétés savantes qui sont toutes contre la chloroquine, on peut encore attendre longtemps.
Merci beaucoup, Christian Perron, d'avoir été ce matin sur l'antenne d'or Radio Classique, chef du service infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il est 7h57, dans un instant, le décryptage de David Barou.